Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 8 octobre 2025, il est 21h31 et nous venons de réussir un démarrage propre. On arrive à se recaler petit à petit. Ce soir, on refait un live spécial pour suivre l'actualité parce que ça mérite quand même de continuer à suivre. Je sais qu'il y a des peurs, qu'il y a des doutes quant à la nécessité de ce live après une intervention de Le Cornu qui a été extrêmement vide. Mais moi, je pense qu'il y a quand même des choses à en dire intéressantes, en particulier au terme de cette journée. Alors déjà, on a encore eu une journée à rebondissement, notamment sans doute parce que sortent régulièrement dans les médias tout ce qui sort au niveau du brainstorming, sans doute à Matignon. Il y a toujours des indiscrétions qui sont sorties. Ce matin, Le Cornu a pris la parole pour dire rien. Parce que rien n'avait avancé, ça permettait juste de revenir un petit peu sur la proposition de suspension des retraites, de la réforme des retraites par borne. Dans la journée, il y a eu des annonces comme quoi il était possible d'aller vers un Premier ministre de gauche, et finalement, il n'y a pas eu, parce que, visiblement, à gauche, ils n'étaient pas d'accord, parce qu'ils veulent une vraie cohabitation, de la même manière qu'à droite, ils veulent une vraie cohabitation aussi, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus de gouvernement macroniste avec des ministres des autres, ils veulent un Premier ministre chacun de leur bord. Visiblement, jusqu'ici, ça bloque. Et donc, ce soir, au terme du délai de 48 heures qui avait été prévu par Emmanuel Macron, et alors qu'en fin de soirée, entre 7 et 8 heures, le Cornu est allé faire son compte-rendu à Emmanuel Macron sur ce qu'il avait fait, le Cornu est donc allé aux 20 heures de TF1 pour s'exprimer. Et là, il n'a rien dit. Alors, il a quand même dit une chose, ce qu'il a le plus dit, et qu'il a dû dire une bonne dizaine de fois, j'ai pas compté, mais à l'oreille, on devrait être par là. Il a répété qu'il avait démissionné. Donc, visiblement, hein, si on se tient à une analyse du discours, l'idée force principale que M. Le Cornu souhaitait faire passer, c'est qu'il a démissionné. Voilà. Et qu'il n'est plus chargé que d'expédier des affaires courantes, y compris comme ministre des armées, mais bien qu'il n'est pas Premier ministre. Quand on lui a demandé s'il serait éventuellement le prochain Premier ministre, il a répondu qu'il avait démissionné. Donc il n'était pas sûr que... Voilà. Quand on lui a demandé si la réforme des retraites allait être suspendue, il a répondu, dites-le avec moi, qu'il avait démissionné. N'est-ce pas ? Et donc, en fait, c'était la réponse fondamentale à peu près toutes les questions qui lui ont été posées, c'est-à-dire, j'ai démissionné. Je suis plus en charge, c'est pas moi. Hein, voilà. Donc, le premier indice moi, que j'ai de cette allocution, c'est que pour moi, c'était essentiellement de l'auto-exfiltration. C'est-à-dire le type qui a fait ce qu'il a pu pour son patron, en protestant de sa loyauté envers lui, mais qui, au bout d'un moment, se dit que c'est plus possible. Il avait démissionné, il a accepté de rester 48 heures de plus, au bout de ces 48 heures, il voit qu'il n'y a rien qui est faisable, donc il va faire une allocution, dans laquelle il se montre optimiste, en disant, comme ça, il reste sur un bilan aussi positif que possible, sachant que ça doit être possible de trouver un accord sur le budget, la perspective de la dissolution s'éloigne, etc. À aucun moment, il n'a expliqué en quoi ça s'éloigne. Il a expliqué que la majorité des parlementaires ne voulait pas de la dissolution. Puis ensuite, il a expliqué que les 210 membres du socle commun ne voulaient pas de la dissolution et pensaient qu'il fallait trouver un budget. 210, on est très loin de la majorité qui est à 289 quand même. Hein. Bon. Donc la réalité aussi, et ce qui était le non-dit dans ce qu'il expliquait, c'est que les gens qui ne veulent pas de dissolution ne veulent pas de solution ensemble. Ce qui est un problème. C'est-à-dire que d'accord, au total, il y a peut-être plus de la moitié des députés qui, en prenant tous les groupes, qui ne veulent pas de dissolution. Mais la réalité, c'est que ce n'est qu'à condition d'avoir un gouvernement où il n'y a pas une autre partie de ces mêmes députés. Ce qui fait qu'à la fin, vous n'avez pas de majorité. Donc en réalité, on voit mal en quoi la situation s'est améliorée. Et quelle est la seule information tangible, qui n'en est pas une, mais qui en est une quand même, dans ce qu'a dit Le Cornu, en réalité, c'est qu'il devrait y avoir un Premier ministre désigné sous 48 heures. Donc, a priori, le président de la République se donne encore 48 heures, après s'être déjà donné 48 heures. Et donc, il continue encore à promener les gens comme ça, tout en refusant la dissolution, mais ce qu'il expose quand même à un danger qui est celui de mise en tension de la population et des partis, parce qu'on sent qu'il y en a qui en ont ras-le-bol. Le ton sur lequel Marine Le Pen a indiqué que désormais elle censurait tout, ça, c'était distinct du ton qu'elle employait jusque-là. Si vous écoutez bien, c'était pas le ton du calcul du truc qui a été. C'était le ton du on en a marre, quoi. C'est nerveusement, ça finit par être épuisant. Donc, moi, le sentiment que j'ai, je ne pense pas que ce soit du wishful thinking, c'est que le cornu a vu qu'il n'y avait rien à faire. Il s'en va. Il cherchait déjà à s'en aller lundi parce que. Déjà, il ne faut pas oublier, hein, Macron lui avait imposé une deadline pour nommer son gouvernement à dimanche soir. Donc il balance son truc, ça saute, il se démissionne. L'autre arrive à le convaincre de rester 2 jours de plus. Bonne pomme, il reste. Là, il s'en va. Quand Léa Salamé, ça aussi marrant, quand Léa Salamé, toujours pareil, toujours même réponse, quand Léa Salamé lui demande est-ce que du coup, est-ce qu'il y a un budget qui va être déposé lundi ou mardi, qui est le dernier délai? Et là encore une fois, il a répété, j'ai démissionné. Mais en gros, oui, je vous laisse mon brouillon, quoi. J'ai fait un truc vite fait, et là, en un mois, j'ai fait ce que j'ai pu avoir le temps, mais maintenant, c'est plus mon problème. Voilà. L'interview, véritablement, c'était une manière de dire, c'est plus mon problème. En plus, il revenait sans arrêt au discours de Bayeux, celui du général de Gaulle, je ne sais pas si c'était le premier ou le second, je crois que c'était le second, ça devait être celui de 45. Dans lequel il donnait les grandes lignes qui ensuite se sont concrétisées avec la Ve République, sur le rôle du président comme arbitre des partis, etc., qu'il fallait pas dévaloriser. Alors il a bien insisté que pour lui, l'élection était en 2027, et qu'il fallait pas essayer d'affaiblir la fonction en demandant une démission, parce que ça affaiblirait tout l'édifice, etc. Très bien. Néanmoins, une bonne partie de son intervention, ça consistait aussi, d'une manière avec toutes les formes possibles, à dire voyez Macron. Moi j'ai démissionné, voyez Macron. Quel est le prochain Premier ministre? Moi j'ai démissionné, j'ai dit à Emmanuel Macron ce que j'en pensais, maintenant voyez Macron. C'est lui qui aura à désigner un Premier ministre, c'est le Premier ministre qui aura à décider ce qu'il fait avec la réforme des retraites, tout ça c'est plus mon problème. C'est comme ça que j'ai compris cette intervention. Donc pour moi, le blocage continue. En fait, le blocage continue, il continue carrément. Et dans cette situation, le psychodrame va continuer. Parce que du coup, on en est où maintenant? Si ces négociations continuent, il n'y a même plus le cornu comme fusible. Puisque à compter de maintenant, on doit considérer, et apparemment c'est ce qu'il considère lui-même, que le cornu, tout Premier ministre démissionnaire qu'il est, n'est pas en charge de former ou de trouver, de faire avancer une négociation. Donc qui va le faire? Est-ce que c'est Emmanuel Macron? Auquel cas, tout reconduit à nouveau sur Emmanuel Macron. Est-ce que les socialistes veulent participer au gouvernement? Il y a des velléités du côté d'Olivier Faure, mais en même temps, il n'a cessé d'expliquer dans la journée que c'était des intox, les choses qu'il disait qu'il voulait gouverner avec la Macronie. Donc il était question d'accord, mais en cas de cohabitation, c'est nous qui dirigeons. Si ils font leur cohabitation, les LR ont dit, alors semble-t-il, c'est pas tout à fait net chez eux, parce qu'il y en a toujours qui sont prêts à se précipiter pour être ministre, mais grosso modo, quand même, en tout cas, c'est l'avis de Retailleau. Si c'est sans censure, Retailleau a dit que les LR censureraient un gouvernement de gauche. Au milieu, vous avez Horizon. Horizon, ils ont pris leur parti maintenant avec Édouard Philippe. Ce qu'ils veulent, c'est que Emmanuel Macron démissionne pour permettre à Édouard Philippe de se présenter. Mais clairement, ils ont fait ce choix hier, on en a parlé. Donc à partir de là, eux aussi, ils voteront la censure. On peut compter que chaque fois qu'ils pourront voter une censure, Horizon, ils le feront. Pour précipiter la chute d'Emmanuel Macron. Ben, si vous regardez ça comme ça, je veux bien, il y a l'hypothèse Premier ministre de gauche. Cette hypothèse existe. Mais si un Premier ministre de gauche est désigné, je vais chercher avec vous, on va faire un petit calcul. Hein, on va retaper cet outil très utile qui avait été mis en place. Simulation majorité parlement. Ah, ça forcément, ça ne marche pas. Attention. Si vous êtes sur votre PC, je vous invite à faire la même chose. Formez votre coalition à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est ça. Datton. Je ne sais pas si je peux vous le... Ah non, je pourrais pas vous l'afficher ici. Il faudrait que je le fasse sur l'autre PC. Et je veux pas faire planter OBS, donc on va dire ça comme ça. Je vais juste vous le faire à l'oral. On va essayer de réfléchir ensemble. Alors, simulation donc de coalition majorité. Si on prend un gouvernement de gauche, vous dans la censure, vous aurez le RN, 123 députés. Vous aurez, alors je crois que l'UDDPLR, pardon, c'est Ciotti, donc ça aussi, ça serait dans la censure, puisqu'ils censureront avec. Vous auriez les Républicains qui censurent, ça fait 50 de plus. Vous auriez vraisemblablement Horizon qui censure, ça fait 34. Horizon, j'aurais pas été sûr avant hein, pour aller avec un gouvernement de gauche, mais à partir du moment où ils ont décidé qu'il fallait faire sauter Emmanuel Macron, ils censureront, a priori. Et si vous rajoutez LFI, NFP, vous arrivez à 293 sièges, donc vous avez une majorité pour censurer. De base. Même si vous avez la totalité de Renaissance, les écolos, les communistes, le MoDem, les socialistes, les non-inscrits, et Liot, tous ensemble qui soutiennent le gouvernement, ça ne suffit pas. Donc cette solution de nommer un gouvernement de gauche dans lequel il n'y aurait pas LFI, puisque LFI, ils ont dit en gros qu'on ne veut pas, parce que s'il faut un gouvernement de gauche, il y aura vraisemblablement des ministres macronistes dedans. Faure a eu l'air de dire que c'était hors de question. Donc je ne vois pas comment ceci pourrait être stable. Donc c'est encore une fois, c'est reculer pour mieux sauter. Alors est-ce que Emmanuel Macron, et peut-être qu'il en est un, hein, est-ce qu'il espère être sauvé par une sorte de gong, voilà, qu'il va se passer un truc d'ici 2 jours? J'en sais rien. En tout cas, il trouvera peut-être un autre calcul. Mais le fait est qu'il n'y a plus de Premier ministre pour véritablement servir de fusible, que assez clairement, quand vous écoutez ce qu'a dit Lecornu ce soir, le mec se retirait. C'est-à-dire l'idée en gros c'était maintenant moi je vais m'occuper des affaires courantes, il faut rien me demander de plus. C'est ça qu'il disait. À côté de ça, il disait c'est important de trouver un budget, etc. Mais clairement, il n'a pas l'air d'avoir envie d'assumer l'échec. Donc il se met de côté. Et donc vous avez Emmanuel Macron, dans sa position de président au-dessus des partis, mais en fait seul face aux partis, c'est ça la réalité, qui se retrouve à la tête de ça. Donc on est encore pleinement, j'ai envie de dire, dans l'absolutisme présidentiel avec cette idée-là. C'est-à-dire pleinement dans ceux qui poussent à la révolution. On est dans une situation où, ben je l'ai dit, d'ailleurs je vous ai dit que j'en avais été le premier surpris, de la façon dont ça avait accéléré hier. Moi j'avais prévu de faire un live qu'aujourd'hui, j'ai fait une émission hier finalement, à cause de toute cette montée en pression autour de l'idée de démission d'Emmanuel Macron. Clairement, ça ne va pas aider Emmanuel Macron de considérer encore qu'il y a une chance de faire un gouvernement, tout en refusant de dissoudre. Parce qu'un certain nombre, dont RN et LFI, commencent à lui reprocher très lourdement. Hein. Marine Le Pen l'a déclaré très clairement aujourd'hui. Elle a dit, je censurerai jusqu'à ce qu'il y ait une dissolution. C'est-à-dire, elle veut aller chercher la dissolution. Et éventuellement, maintenant, elle le rajoute quasi systématiquement, et éventuellement la démission d'Emmanuel Macron avec. Voilà. Alors qu'avant, elle ne le cherchait pas, ça. Vous avez Horizon, donc, qui cherche aussi la dissolution. Enfin, qui ne cherchent pas la dissolution, eux, ils cherchent la chute d'Emmanuel Macron. Mais la dissolution peut être un moyen pour aller à la chute d'Emmanuel Macron, pour eux aussi, hein, très clairement. Donc vous avez de plus en plus de monde qui pousse à ça. Et vous avez une fatigue, clairement. Hein. Tous les jours, maintenant, vous avez les journalistes qui vont interroger les Français pour leur demander ce qu'ils en pensent, et les gens en ont ras-le-bol. Franchement, je dirais pas une dépression, mais enfin, il y a une colère qui monte. On le voit aussi dans les plateaux TV qui sont faits avec des gens de la société civile qui viennent s'exprimer. Et on a Emmanuel Macron qui est face à ça. Et donc, je disais, ça accélère encore plus que je pensais. Il y a des gens qui se débloquent. Aujourd'hui, autre élément important, vous avez quand même le point en une, semble-t-il, donc qui paraît demain, sous la plume de Nicolas Baverez. Le point, c'est important. C'est gros, gros magazine de la bourgeoisie centriste, centre-centre-droit. Mais plutôt centre, hein, quand même, que centre-droit, quand on voit les dernières participations du électorat aux élections. C'est un électorat qui vote très fortement plus au centre que le reste de la population. Eh bien, appel à la démission d'Emmanuel Macron. Je pense que vous allez avoir de plus en plus d'organes de presse qui commencent à le dire, qui vont commencer à le dire. Ce qui reflète également l'avis d'une partie de la population. Vous avez Emmanuel Macron qui a atteint encore un record d'impopularité. Il est à 82% d'opinion négative. Vous n'avez plus que 14% d'opinion positive pour Emmanuel Macron. C'est vraiment le dernier carré des fidèles. Donc tout ceci se resserre. Et donc dans ce contexte, on va peut-être encore avoir des accélérations demain. Je ne suis pas à l'abri de devoir encore refaire un live demain soir. J'espère pas. Il faut quand même que j'ai un peu une vie de famille à un moment. Mais si jamais il se passe des choses du même ordre que l'histoire d'Édouard Philippe-Thiers, si demain dans la journée, il apparaît finalement que ben, c'est impossible de faire ce gouvernement de gauche. Hein? Maintenant, le cornu, il est parti, lui, en disant qu'au moment où il partait, alors on n'a que sa parole, mais en disant au moment où il partait, la perspective de dissolution s'éloignait, c'était possible de trouver un accord sur le budget. Donc du coup, les gens, à partir du moment où il est parti en disant ça, les gens, si ça foire derrière, ça veut dire que ça serait intégralement la faute de Macron. Parce que lui, il pourra toujours dire, moi j'avais laissé, en gros, il y avait une option. Bon, l'option a disparu à cause de Macron. Ça n'arrange clairement pas la situation. Et à la limite, j'ai envie de dire, c'est ce qui pouvait se passer de pire ce soir, qu'il ne se passait rien. Parce que on a un côté exponentiel dans la colère que tout ceci fait naître à chaque fois. Vous aurez remarqué, à chaque étape, après Barnier, après Bayrou, après Le Cornu, les gens s'énervent de plus en plus et de plus en plus vite. Notamment parce qu'on s'approche de la nécessité d'avoir un budget, que la pression des marchés et des voisins se fait de plus en plus forte. Et même juste que les gens en ont marre de ce cirque. Parce qu'à chaque fois, c'est un jour sans fin. D'ailleurs, même ce matin, ils en parlaient. Ils demandaient à Olivier Faure s'il connaissait le film. C'est la journée de la marmotte. Ça n'arrête pas de recommencer. Et donc, on est à un stade aujourd'hui, à mon avis, où, et je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron ait bien compris ça, et c'est vraiment des situations hyper critiques, ça. Historiquement, c'est assez rare. Vous arrivez au moment où chaque jour que vous passez. C'est comme quelqu'un qui est très très malade, vous savez, qui fait un, je sais pas, qui fait un AVC ou un truc comme ça. Vous savez que chaque seconde, chaque minute compte en fonction des séquelles que vous aurez derrière, etc., de ce que vous pourrez récupérer, tout ça. Ben, là, c'est pareil, c'est-à-dire que chaque jour qui passe est plus dangereux que le, sans régler le problème, est plus dangereux que le précédent et a des conséquences qui ensuite sont irrémédiables. Je pense très honnêtement que ce qui s'est passé hier avec Édouard Philippe, qui décide de basculer dans le camp qui demande la démission d'Emmanuel Macron, en quoi il rejoint LFI, c'est irrémédiable ça. C'est fait, c'est fait. Ça veut dire que la suite de la crise doit être gérée avec ça. Désormais, vous avez un mec qui est à la tête de 34 députés qui veut votre tête. Voilà. C'était déjà le cas de LFI, bon, ça, c'est pas surprenant. De plus en plus, ça va être le cas du Rassemblement national. Donc, et chaque jour qui passe, donc là, 48 heures, vous regardez les 48 dernières heures, ce qui s'est passé. Regardez la vitesse à laquelle on s'est mis à parler de plus en plus de la démission d'Emmanuel Macron. À quel point les médias en parlent de plus en plus, le nombre de gens qui se sont ralliés à cette idée. Et maintenant, d'ailleurs, c'est intéressant, on a qui se met en place finalement un autre clivage, un clivage dans le clivage pour ainsi dire, qui rappelle les clivages révolutionnaires, qui est de savoir est-ce que l'important c'est de préserver pour l'avenir la fonction présidentielle. Et donc d'être patient et d'attendre jusqu'à 2027, parce que comme ça, la fonction présidentielle restera intacte pour la suite de l'histoire. Ou est-ce que il faut sacrifier la fonction présidentielle, justement, son intégrité, sa solidité, à la nécessité de faire avancer le régime et de faire des réformes et de faire évoluer, de faire le budget, etc. Est-ce qu'il faut sacrifier la fonction à cette actualité? J'ai l'impression, véritablement, que ça devient le fond du débat, en fait. Et plus ça devient ça, le fond du débat, moins la chance que même une dissolution évite ça, sera vraisemblable. Si Emmanuel Macron décide ce week-end de faire une dissolution, ça ne sera pas du tout pareil que s'il avait décidé lundi de faire une dissolution. Il se sera passé beaucoup trop de choses entre-temps, encore une fois, la situation évolue très très vite et elle évolue à chaque fois avec un effet cliqué, selon moi. Donc, dans l'attitude d'Emmanuel Macron, comment est-ce qu'il voit ça? Il y a une autre chose qu'il faut considérer, et je vais terminer là-dessus, et ensuite on va discuter en prenant vos questions. Il y a une autre chose à considérer, c'est que vous savez, j'ai dit hier que l'info était sortie, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, dans le Canard enchaîné, qui disait que la présidence aurait dit aux préfectures de se tenir prêtes pour des législatives les 16 et 23 novembre prochains. En général, le Canard enchaîné a des informations fiables. Si c'est vrai, je vous ai dit qu'à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il y aurait quand même, si la dissolution était annoncée aujourd'hui, bien sûr, qu'il y aurait plus de temps pour faire campagne qu'en juin l'année dernière. sauf qu'il n'est pas du tout impossible, en réalité, qu'il faille prendre les choses en sens inverse, et qu'Emmanuel Macron estime qu'il peut décider la dissolution au dernier moment, et qu'à la limite, il veut tenir jusqu'au dernier moment possible. C'est pas impossible. Auquel cas, ça nous amènerait jusqu'à quoi? Jusqu'à ben, mi-octobre, hein, un mois avant, quelque chose comme ça, un mois avant le premier tour. Donc ça laisse pas énormément de temps, ça laisse une semaine de plus, mais peut-être qu'il cherche également à désorganiser un certain nombre de partis en se disant si je l'annonce au dernier moment, j'ai plus de chances de, je sais pas quoi, je sais pas les chances qu'il espère avoir, mais encore une fois, peut-être qu'il attend d'être sauvé par le gong d'une manière ou d'une autre. Ou juste qu'il fait ça pour faire chier, c'est possible aussi, vu la psychologie du personnage, ce qu'il avait déjà dit au terme de la précédente dissolution. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Larcher, comme Brand-Pivet, semble-t-il, ne veulent toujours pas de dissolution. Il y a cette idée qu'une dissolution, ça coûterait 15 milliards, etc. Donc là aussi, il y a une question, il y a une hypothèque. Sachant que d'ici là, 15 octobre, ben 15 octobre, ça nous amène, c'est quoi? C'est lundi prochain, le 15 octobre, ou mardi. Non, c'est mercredi. Mercredi prochain, le 15 octobre. Me semble-t-il que c'est ce jour-là qu'il y a la manifestation qui est prévue pour la démission d'Emmanuel Macron. Bah, il n'est pas impossible que ça se synchronise de cette manière-là. En tout cas, si vous voulez, on est dans une situation où je pense qu'il est dangereux, en tout cas présomptueux, de dire que parce qu'aucune décision a été prise, il n'y a rien eu. Au contraire, moins des décisions sont prises, plus il y a quelque chose, d'après moi, dans la mesure où le fait de ne pas prendre de décision, ça maintient la pression et le feu sous la cocotte, et donc la pression va continuer à monter. Et à ce stade, encore une fois, je peux me tromper, on verra, ça c'est pas précisément de l'historionomie, c'est plus de l'analyse politique, mais à ce stade, je pense que demain matin, demain dans la journée, on risque d'avoir une autre info du type. À moins qu'il y ait un Premier ministre qui soit désigné, mais encore une fois, bon. Mais même, de toute façon, à ce stade, bon, deux choses. Un, à mon avis, demain, s'il n'y a rien, demain matin ou demain dans la journée, on verra une autre info aussi importante que Édouard Philippe qui avait rejoint le camp de la demande de démission. S'il y a un Premier ministre qui est nommé, il n'est pas du tout impossible que ça fasse exactement la même chose qu'avec le cornu, mais qu'avec le cornu, genre ce week-end. C'est-à-dire tout de suite le truc qui pète, parce que ça oblige tout le monde à se dévoiler. Allez, pour l'instant, le cornu a expliqué que, et je pense qu'il a un biais là-dessus, hein, on a nos biais, il a les siens, c'est le biais du nez dans le guidon, c'est qu'il dit que dans le secret de la discussion, il a vu qu'à chaque fois, les acteurs politiques avaient la volonté de trouver une solution et même étaient prêts à le faire, mais étaient finalement pris en otage par leur base militante, qui eux étaient plus radicaux. Et ça, on veut bien le croire. Hein. Simplement, le problème, c'est que ça ne veut rien dire, ça. Parce que précisément, ils sont en otage de leur base militante. Et donc, c'est pas parce qu'entre eux, ils seraient bien d'accord pour trouver un accord. Ce qui est important pour eux, là, c'est de sauver l'avenir. Il y a des élections de toute façon municipales dans pas longtemps. Les mecs ne peuvent pas contrarier leur base militante. Et les bases militantes, d'après les derniers sondages, alors je n'ai pas vu de nouveau depuis la fin du mois d'août, mais elles sont visiblement très très remontées et grosso modo veulent que ça pète. Hein. C'est assez ça le truc très net. Donc je pense pas qu'il y ait d'accord possible en fait. À ce stade, il y aura peut-être qu'il va essayer de nommer quelqu'un en mode là aussi grenade dégoupillée. mais il y a très peu de chances que ça aboutisse à quelque chose, à mon sens. Et plus le temps passe, moins il y a de chances que ce soit le cas. Alors, est-ce que nous avons des questions? Nous avons Iruma qui est toujours héroïque dans le canal. On le remercie et vous pouvez l'applaudir en mettant des petits clap-clap ou mieux l'applaudir en mettant des pouces bleus sous cette vidéo, naturellement, puisque c'est très très important, encore une fois, pour l'algorithme et que l'algorithme a besoin d'être stimulé. Vous avez en ce moment les gros youtubeurs qui se plaignent que l'algorithme a été, semble-t-il, modifié pour favoriser les nouvelles chaînes ou les petites chaînes. Bah écoutez, du coup, que quelqu'un en profite, et ceux qui doivent en profiter, c'est nous, donc, et c'est vous, hein, en valorisant vos chaînes préférées. Encore une fois, vous le voyez, hein, moi, plus on est soutenu, plus je suis content de venir avec vous, et plus j'arrive à le faire passer auprès de ma femme. C'est quand même ça aussi qui est important. Bien, alors, les dons. Alors, on remercie Alain Juliron qui a fait deux dons d'affilée, deux fois le même, et on le remercie vivement pour ça. Et j'espère que les gens dans le Télégramme le remercieront aussi. Il y a des discussions interminables avec Alain, mais il est là et c'est un compagnon fidèle, et ça mérite d'être souligné. Dominique, merci pour le don aussi, qui demande, est-ce que l'affaire dont les gens sérieux ne parlent pas pourrait être utilisée pour le finir? Alors, je suppose que l'affaire concerne l'entrejambe de la première dame. Je vois pas comment ça pourrait être utilisé pour le finir, quand même. C'est plutôt le signe d'un agacement populaire et qui vient expliquer cette colère militante, notamment d'une partie des gens. Mais utiliser, je vois difficilement comment ça pourrait être utilisé directement là. Mais probablement que ça flottera autour des débats. Docteur Sherlock, merci. Y a-t-il un risque à court terme de défaut partiel de la France avec fonctionnaires pas payés, coupes drastiques dans les budgets, etc.? Ben ça dépend déjà si on trouve un budget. Alors, ce qui est amusant, c'est que Léa Salamé a demandé, parce que le Cornu a expliqué que donc son souci en tant que Premier ministre démissionnaire, qui expédie les affaires courantes, c'était de respecter le budget tel qu'il a été voté, et donc de s'assurer que le déficit n'explose pas d'ici la fin de l'année. Quand elle lui a demandé si ça serait tenu, il a fait une moue, et puis il a quand même dit, bon, en tout cas, à date, je vous dis, moi, que, grosso modo, là, ça tient. Bon, donc on verra. Encore une fois, je rappelle que quand on a vu les recettes, la baisse de recettes de TVA, je rappelle qu'ils attendaient plus de 2% d'augmentation, on a eu plus de 2% de baisse des recettes de TVA au premier semestre. Il n'y a pas de raison que ça se soit amélioré depuis. Hein. Je ne pense pas que les gens se sont précipités pour consommer. Donc ça risque d'être compliqué, cette tenue du budget. Il y a ça, il y aura la notation de Standard & Poor's qui doit avoir lieu aussi. Bon, ça ne changera pas grand-chose. On a déjà été dégradé par Fitch. Mais bon, ce serait quand même, je pense, pas le coup de grâce, mais enfin un coup de plus. Donc il va. Alors. Défaut partiel, je ne sais pas si on en sera encore là. S'il y a des attaques sur la dette, ça peut devenir beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, à un moment, je pense qu'il y a une sorte de défaut moral. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il faut quand même faire quelque chose, quoi. Mais de défaut pur, je ne suis pas vraiment compétent pour mesurer précisément à quel point, en tout cas à court terme, c'est possible. La bête du Gévaudan, peut-on imaginer que Macron nomme fort Premier ministre ou celui-ci ferait un gouvernement avec des socialistes jusqu'à LFI en misant le fait que la droite ne descend jamais dans la rue et que la Renaissance s'allie? Alors ça, c'est possible. C'est le dernier cas, véritablement, qui est possible, qui est pas certain, parce que y a beaucoup de gens. Déjà, on a vu, hein, il y a des chaînes Telegram qui sont sorties, chez les députés Renaissance, les mecs sont pas contents hein, que de l'abandon de la réforme des retraites, ils sont très très attachés. De même que la droite, d'ailleurs, pour une raison qui m'échappe. Mais clairement, il y a ce truc-là. Donc, c'est même pas sûr qu'ils seraient pas censurés. Mais enfin, peut-être que ces gens ne censureraient pas et décideraient de laisser la gauche faire. En tout cas, c'est la seule hypothèse, de toutes les hypothèses peu probables, c'est la moins improbable, on va dire. Et à ce moment-là, je pense qu'on risque de retomber sur un phénomène assez fréquent dans le cadre des débuts de révolution. C'est les cas où, c'était pareil pour Allende, par exemple, hein, je pense Allende, c'est le meilleur exemple qui me vient, mais c'était le cas aussi au début de la révolution espagnole, où vous avez la gauche qui prend le pouvoir et qui commence à l'exercer de manière très autoritaire, alors qu'elle est minoritaire. Je rappelle qu'Allende a été élu avec 30% des voix. Parce que souvent on dit « Ah, c'est le président, il a été élu ». Oui, mais le système faisait que le président chilien était élu avec seulement 30% des voix. C'est pour ça qu'il y a eu tous les problèmes politiques après derrière. Hein. Allende a imposé une politique minoritaire. Il avait le Parlement contre lui, Allende. Il faut se rendre compte de ça. Bon. Les premiers gouvernements républicains espagnols aussi étaient minoritaires. Ils avaient fait une grosse percée de score au municipal, ils avaient remporté une municipalité importante, mais ils n'étaient pas majoritaires dans le corps électoral. Mais ils ont pu s'imposer comme ça. Et donc, il y a un risque, comme ça, si un gouvernement de gauche est nommé, effectivement, qui se conduise immédiatement de manière autoritaire, sous la pression de LFI, avec un Mélenchon qui tenterait de dicter sa politique continuellement à Olivier Faure, avec probablement en lançant, il faut aller, ça peut aller jusque-là, hein, en lançant des milices antifa dans la rue, parce que les mecs se sentiront protégés, et donc déjà que ces mecs-là d'habitude se gênent pas, là ils se sentiront encore plus protégés. Et pour le coup, ça ressemblerait beaucoup au Chili d'Allende ou au mois précédant le début de la guerre civile en Espagne en 1936. Donc à mon avis, il y aura un dérapage comme ça, déjà en interne, au niveau de la violence politique, et naturellement, et probablement qu'en plus on aurait des gros problèmes sur les marchés dans une telle hypothèse, naturellement. Parce que, encore une fois, Olivier Faure est certes un type qui, à titre personnel, je pense, est modéré, mais on ne peut pas éternellement jouer avec le feu de LFI, donc ça pourrait assez vite déraper. Rudolf Millet, à quelle étape de la construction nationale se situe Budapest? Budapest, juste la ville, ou vous voulez désigner tout simplement la Hongrie? Si c'est la Hongrie d'Orban, pour moi, elle est un impérialisme revancheur. Je pense qu'elle a commencé ça, mais c'est une réplique d'impérialisme revancheur. C'est-à-dire que pour moi, il y a eu le premier impérialiste revancheur. C'était l'amiral Horthy dans les années 30, mais on a eu, je pense, un reboot, et donc pour moi, on a une nouvelle révolution nationale à partir de 1991, et maintenant, je pense que voilà, Orban est un impérialiste revanchard contrarié, et en plus un impérialiste revanchard de réplique, donc forcément moins autoritaire que le premier. Docteur Sherlock, merci pour le don. Que pensez-vous de Marine Le Pen en termes d'intelligence politique? Quel avenir lui voyez-vous dans la suite des événements? J'ai eu longtemps de gros doutes sur l'intelligence politique de Marine Le Pen. J'en ai encore, alors sur ses convictions des politiques à mener, très honnêtement, parce que je pense qu'elle s'en fout au plan économique, etc. Et machin. Il y en a plein de présidents qui s'en sont foutus. Hein. Mitterrand reconnaissait n'y connaître absolument rien en économie et n'avait strictement rien à foutre. Après, comme politicienne, il faut reconnaître qu'elle est redoutable. Quand Zemmour a commencé à grimper, j'ai pensé qu'elle allait se faire sortir, et elle a survécu à ce truc, elle a surnagé, c'était extraordinaire. Elle a une, on néglige souvent la popularité qu'elle a dans l'électorat populaire du Rassemblement National. Elle est vraiment, vraiment très aimée, ce qui est une force que tous n'ont pas. Et je pense, malgré tout, qu'elle a un bon sens et une intelligence politique, en particulier dans ce qu'elle fait ces derniers jours, parce que encore une fois, en plus, j'ai même pas l'impression que ce soit réfléchi, j'ai l'impression que c'est naturel, qu'elle en a marre et qu'elle dit qu'elle veut tout censurer. Mais paradoxalement, ce que je disais tout à l'heure sur Twitter, on a l'impression, enfin, la façon dont elle le dit, ça sonne comme un discours parfaitement responsable, ce qui est très fort. Arriver au moment où vous demandez, vous dites que vous allez censurer comme un bœuf jusqu'à la chute, jusqu'à la dissolution, voire la démission du président. Jusqu'ici, c'était LFI qui faisait ça et ça avait l'air très très révolutionnaire. Quand c'est elle qui commence à le dire, ça a presque l'air responsable, en disant qu'on fait courir les gens, les Français, à une babale, etc., avec tout ça. Donc je pense qu'il y a au moins une intelligence pratique politique de Marine Le Pen. Quel avenir je lui vois dans la suite des événements, ça c'est une autre question. Parce que elle, autant je pense qu'elle peut avoir un rôle important encore en France. Elle peut être présidente pendant un moment. Hein. Ça peut être Petro Poroshenko de truc. Mais je lui vois pas de rôle à l'échelle européenne, en revanche. Parce que justement, là, elle perdrait un certain nombre des avantages qu'elle a au plan sur le plan national, et notamment cette assise populaire que pour le coup, elle aurait absolument pas hors de France, quoi. Donc, et vu que bah, par la suite, malgré tout, une bonne partie des choses vont se faire au niveau européen, je pense que ça sera son plafond de verre. Georges Colvézi, cette séquence politicienne n'est-elle pas le nouveau chapitre d'une pièce de simulacre jouée pour dynamiter le paysage politique? Voir le doigt d'honneur lancé par Brigitte le 6 octobre. Elle a lancé un doigt d'honneur, Brigitte? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Et puis pourquoi pour dynamiter le paysage politique? Je ne vois pas je ne vois pas la logique. Pour essayer de se sauver de la part de Macron, sans doute, mais. Florent Borélis, pensez-vous que la Chine attaquera Taïwan prochainement et que c'est ça qui poussera la Russie à attaquer les pays baltes? Non. Je pense que si la Russie attaque Taïwan, elle profitera. Si la Chine attaque Taïwan, elle profitera de ce que la Russie aura d'abord occupé les Occidentaux en Europe. Et je continue de penser, même si les vols directs entre la Chine et l'Inde ont repris, je continue de penser que les tensions entre la Chine et l'Inde vont rééclater. J'en suis convaincu. Iruma, de la question de Tenval, combien de temps Macron peut-il temporiser jusqu'à 2027? Quel est l'éventail de contingences historiques concernant la droitisation-gauchisation en sortie de Révolution nationale? Très honnêtement, plus le temps passe, plus je suis convaincu qu'Emmanuel Macron ne terminera pas son mandat. Et j'en suis convaincu précisément pour la raison que je vous ai dit plus tôt, c'est-à-dire que maintenant, c'est en train de devenir un sujet. La fonction présidentielle est en train de devenir un sujet. Sa capacité à bloquer le jeu démocratique est en train de devenir un problème. Et vous avez encore une fois, hein, le résultat de l'interview de ce soir, c'est que le cornu s'en va en disant... Maintenant, pour le merdier, voyez Macron. Moi, je ne veux plus être le fusible de tout ça, quoi. Donc, à mon avis, voilà. Déjà, attendons de voir ce qui se passe demain. Parce que vous avez tout un tas de gens qui, après ce qu'a dit le cornu, vont réfléchir hein, dans la nuit. Kadassa, merci pour le don. Macron ne cherche-t-il pas justement à affaiblir le pouvoir présidentiel en bon liquidateur national par fédéralisme européen? Je ne crois pas du tout. Je crois pas du tout. Je crois qu'il a essayé d'utiliser le pouvoir présidentiel français pour prendre le contrôle de l'Europe. Il a échoué, comme dans à peu près tout ce qu'il a fait. Et on est juste face à quelqu'un qui est dans son bunker mental, qui continue à penser qu'il a un destin et qui amène tout le monde dans le mur, quoi. Hugo S. a envoyé 5 souscriptions cadeaux. Ben, je le remercie. Je félicite tous ceux qui les ont reçus et qui auront donc désormais accès pendant un mois à la totalité du catalogue des vidéos, notamment les 60 vidéos essentielles qui peuvent être revues et revues. Historiomum, que vont devenir les énarques pendant et après la Révolution? Je pense qu'ils seront purgés du corps social. J'espère même qu'à un moment, et ça pourrait être le genre de choses qu'ont fait la période révolutionnaire, qu'il soit interdit à toute personne étant ancien énarque d'accéder à la fonction publique. Ça serait mon rêve. Là, je pense qu'il faudrait faire, je vais commencer à militer pour ça. C'est déjà des années que je milite pour ça, pour l'interdiction des énarques d'accéder aux emplois publics. Hiro m'envoie un truc, alors je lis pas l'allemand, mais c'est colossale catastrophe. Frankreich ist am Ende und droht Europa mit den Abgründen zu reich. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air chaud. Sur la France, ils ont l'air de penser que ça se casse la gueule. Ah ben, il m'a mis la traduction. Qu'est-ce qu'il est bon, ce Marvin. Colossale catastrophe, catastrophe colossale, je suppose. La France est à la fin et menace d'entraîner l'Europe dans l'abîme. Question, est-il possible que l'UE nous vire? Ah, ça, je pense que c'est la question que Marvin, que l'UE nous... Non, je pense pas. Je pense pas. L'UE chercherait à prendre le contrôle, à nous gouverner à notre place éventuellement, mais nous virer, c'est pas possible. Ça ferait un gros trou au milieu, je rappelle, hein. Les empires n'aiment pas avoir un gros trou en plein milieu. C'est de la psychologie de base. Florian Borellis, avez-vous vu la charge de Gabriel Attanzio sur BFM TV hier contre la charge des retraites? Peut-il incarner un aphorisme de gauche? Alors, je ne connaissais pas ce personnage. Le type qui a dit ça est une figure de la gauche? Je ne le connaissais pas, lui. Mais je suis pas. Attends, je cherchais, du coup. Je connais parce que je croyais que c'était un des types du. Moi, je croyais que c'était un des types du. Comment dire? Je croyais que c'était un des types. Du public, vous savez, de la société civile. Alors, j'ai regardé. Gabriel, là. Ah oui. Bah, si son nom apparaît, c'est qu'il doit être connu. Professeur agrégé. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui. Ah oui, c'est bien lui, effectivement. Effectivement. Et donc, il est de gauche. Ah oui, pour un renouveau à gauche. Ah ben oui. Ben effectivement, c'est la première fois qu'on voit un type de gauche, vraiment gauche, chargé contre les retraites. Surtout que, d'après son intervention, j'ai vu qu'il disait qu'il avait lui-même manifesté contre les réformes des retraites pendant plusieurs années. Donc oui, ça peut être le signe de ça. Et puis on voit encore d'autres choses, hein, ce que je vous ai dit de manière plus profonde, mais ça reste vrai, hein, ces dernières semaines. Aphorisme de gauche, vous avez de plus en plus de vidéos d'influenceurs qui insultent l'URSSAF, etc. Hein. Donc cet aphorisme de gauche, il se structure. Et d'où ce dont je parle sur l'alliance entre les Nicolas et les autres contre Bernard et Chantal dans un premier temps, etc. Dans le cadre de la recomposition du clivage. RVC, peut-on avoir une révolution nationale française sans IR, surtout qu'on aura une IR européenne, voire une révolution nationale allemande? Alors comme je le disais hier, vraisemblablement non. Si vous avez une révolution nationale, vous avez un IR dedans. La question c'est effectivement qui est l'IR? Est-ce qu'il est proprement français ou est-ce qu'il est européen? Il peut aussi être français et européen. Ça ne serait pas surprenant que l'IR français soit l'IR européen. Si vous repensez à, vous savez, à l'Allemagne, où je compare souvent la France à la Bavière au sein de l'Empire allemand, l'impérialiste revanchard allemand, c'est Hitler, qui a fait l'essentiel de sa carrière politique à Munich, hein, donc en Bavière, d'abord. Donc c'était finalement l'impérialiste revanchard bavarois qui a tenté le putsch de la brasserie à Munich, qui est devenu l'impérialiste revanchard allemand. Istios, le patron a-t-il parié sur la chute de Macron et une guerre Union européenne-Russie? Alors le patron, c'est moi. Donc est-ce que moi j'ai parié sur la chute de Macron et une guerre en Russie sur Polymarket? Non, je ne parie pas. En plus, je ne sais pas m'en servir. Donc je fais pas de pari. Effectivement, c'est une erreur sans doute, mais je devrais le faire. Je devrais aller voir. Il faudrait que j'essaie de m'en servir. Tanguy Brion, est-ce que la révolution nationale européenne va accoucher d'une guerre civile européenne? C'est plausible. J'en ai parlé hier. Je renvoie à ce que j'ai dit en répondant aux questions hier. Mais c'est ben, toutes les révolutions nationales ont souvent des éléments de guerre civile. Rudolf Millet, selon vous, quel serait l'impact des dernières élections tchèques sur le conflit en Europe? Ben, immédiatement rien, mais à terme, ça favorise le scénario le plus dur dans ce que j'ai décrit dans la dernière émission que j'ai faite sur le sujet, puisque ça rend d'autant plus vraisemblable que la République tchèque rejoigne le camp neutre si jamais il y a des succès militaires russes à l'est. Donc ça couperait encore plus les approvisionnements. Bienvenue à François Roger qui nous rejoint. La fin de prise de questions pour 22h20, me demande Marvin. On va faire comme hier, tu laisses encore 2 minutes pour que les gens posent leurs questions. Vous avez 2 minutes pour poser vos questions. À partir de maintenant, ça fait jusqu'à 18, 22h18, a priori. Ouais. Donc bienvenue. Charles Fourcade qui a envoyé une souscription en cadeau. Bravo à celui qui l'a reçu et merci à Charles. Florian Borélis, sachant qu'Eduardo Frei avait déjà fait une réforme agraire et nationalisé le cuivre via la Codelco, Salvador Allende est-il une véritable rupture ou est-il dans la continuité des démocrates chrétiens? Alors oui, mais il voulait aller beaucoup plus loin dans la planification, hein, Salvador Allende. Il avait notamment un projet qui s'appelait Cyber 5, je crois, et qui était d'utiliser, c'était assez moderne, d'utiliser de l'informatique, des gros calculateurs informatiques, pour conduire la planification dans le pays, la planification économique. ASV, l'incapacité chronique de Macron peut-elle pousser les politiques à repasser l'élection du président au suffrage indirect pour laisser le pouvoir à un PM plus amovible? Peut-être, mais moi, à mon avis, surtout, les évolutions, elles devraient se faire du côté, je crois que j'en ai parlé hier, de l'abaissement de la fonction présidentielle, de toute façon, ne serait-ce que coutumière, c'est-à-dire le fait que, c'est Sibeth Ndiaye tout à l'heure qui se plaignait, si le président démissionnait, ça affaiblirait la fonction, ben oui, justement, c'est probablement ce qui va se faire. Première chose. Deuxième chose, il faudrait aussi affaiblir le Conseil constitutionnel, qui sert de rempart et qui est une arme du président dans la guerre contre le Parlement. On l'a vu avec la loi immigration. Et ensuite, je sais pas, la mise en place d'une proportionnelle, par exemple, qui ferait qu'il n'y aurait plus véritablement de possibilité pour le président de la République d'être le chef d'une majorité. Je pense que ça suffirait à limiter ça, et puis il faudrait que le président de la République arrête de présider le Conseil des ministres aussi. Ce serait important. Il pourrait être là, présent, pour y assister, mais pas le présider. Dael, promis, prochaine fois, je donne des euros, c'est gentil. Pensez-vous qu'il existe une menace sécuritaire de la part des forces d'ultra-droite, et quelle place pensez-vous qu'ils occuperont dans le processus de révolution? Je dirais rien dans l'immédiat. Je pense pas qu'il y ait de danger force d'ultra-droite. Par contre, le danger risque de grimper et de grimper assez vite si on a un gouvernement de gauche qui est mis en place et que, comme je l'ai dit, il commence à déborder dans la violence politique. Là, vous aurez les forces d'ultra-droite qui apparaîtront en face sur le mode Freikorps, etc., au début de la République de Weimar, qui avait mis fin justement à la République des Conseils de Bavière, notamment. Rock, comment Philippe fait-il pour rester serein devant l'éventuelle prise de pouvoir par la gauche? C'est comme ça, hein, si ça arrive, c'est dans le cadre d'une révolution. Quand vous pouvez pas changer les choses, ça sert à rien de paniquer. Faudra faire gaffe. Félix Sellerin, Irouma, on dit que Macron pense déjà à 2032. Qu'en pensez-vous? Jouer le chaos et tuer les candidats de son camp pour revenir en sauveur pourrait être sa stratégie sous-jacente. C'est possible, au niveau de la psychologie individuelle, on ne peut jamais dire. Il est peut-être assez fou pour se faire des scénarios pareils, mais c'est complètement délirant. Jean Michalowski, d'un point de vue psychopolitique, que pensez-vous d'un parallèle entre Macron et Louis II de Bavière, formidablement interprété dans le Ludwig de Visconti? Je sais pas. Moi, l'image que j'ai de Louis II de Bavière, c'est l'image de quelqu'un de très comment dire, de très mélancolique, pas quelqu'un qui avait fortement le goût du pouvoir. Honnêtement, j'ai du mal à voir de ce point de vue-là le parallèle avec Emmanuel Macron. Voilà, je trouve ça. Non, j'ai du mal avec ça. Quel est l'intervalle de Tenval? Pardon, question de Tenval. Quel est l'intervalle de contingence concernant la violence durant la Révolution nationale française en cours et d'une éventuelle guerre civile? Merci pour vos réponses et votre travail. De rien. Quel est l'intervalle de contingence concernant la violence entre la Révolution nationale française en cours et une éventuelle guerre civile? Il faut prendre la totalité des cas de révolution qu'on connaît, et puis vous voyez quels sont les cas qui se rapprochent le plus. Elles n'ont pas toutes la même force, les violences civiles, il y en a beaucoup plus, par exemple, à Révolution, à la même époque, dans la Russie soviétique que dans l'Allemagne de Weimar. Bon, en même temps, l'Allemagne de Weimar était quand même beaucoup plus civilisée déjà, dans l'ensemble, que la Russie. Il faut dire ce qui est. Donc forcément, avait des mœurs plus adoucies. Mais ça peut être très vaste. Je pense pas qu'on aurait quelque chose de plus violent que dans les années 1790. Par contre, on peut avoir des choses comparables à ce qui était le niveau de violence au moment de la Commune de Paris, ou même au moment de l'épuration en 1946. Qui est l'impérialiste revanchard de 1871 en France? C'est le général Boulanger. C'est un impérialiste revanchard qui avorte, notamment parce que tout allait très bien. Donc il a essayé de prendre le pouvoir alors qu'il n'y avait pas de crise, ce qui est assez foireux. Mais c'est assez marrant de voir économiquement que même si vous n'avez pas de crise, ben vous avez quand même l'effet politique interne. Parce que ce qui caractérise l'impérialiste revanchard, c'est que souvent il est le produit à la fois d'un agacement politique intérieur qui fait que vous avez l'extrême droite et l'extrême gauche qui peuvent converger sur une figure autoritaire, et qu'en même temps, vous avez une crise extérieure qui va donner de l'élan à cette personne-là et donner le sentiment à une part suffisante de la population que c'est un type comme ça qu'il faut. Dans les années 1880, il ne se passait rien. Hein, c'était calme plat au niveau international, ou quasi. Et donc, à partir de là, Boulanger, sa volonté de revanche contre l'Allemagne, ça faisait très moyennement recette. Mais il a quand même failli prendre le pouvoir. Bon, il finit par aller se suicider sur la tombe de sa maîtresse. Donc en plus, voilà, c'était une figure assez particulière d'hier. C'est vraiment un hier avorté jusqu'au bout. Under construction, question. Si révolution il y a, est-il possible que l'on change de république? Oui. Ouais, surtout si c'est la gauche qui l'a fait, du coup, elle aura très envie de faire une nouvelle république. Hein. C'est pas impossible d'ailleurs que si un gouvernement de gauche est nommé, Mélenchon se mette à pousser tout de suite pour essayer d'obtenir une constituante. Il faut bien se rendre compte de ça, je sais pas si je l'ai dit hier, mais le fait de lâcher des trucs à la gauche, que ce soit sur la réforme des retraites ou quoi, ça ne la rassasie pas. Elle en veut toujours plus parce qu'elle se dit que c'est le moment qu'il faut tirer dessus, quoi. Qu'il faut tirer sur la corde. Et enfin, question de Florian Bourrelis. En cas d'abandon de la réforme des retraites, que va faire la retraite? Que vont faire les retraités? Les retraités, rien. Mais en cas d'abandon de la réforme retraite, que va faire la retraite? C'est un jeu. Je comprends pas la question. Alors, je vais voir si Roma peut voir s'il a une version plus propre. Je vais aller regarder. Si on a des choses sur Tipeee ou si j'ai oublié de saluer de nouveaux membres sur la chaîne, n'hésitez pas. D'ailleurs, hein, si vous n'êtes pas encore membre et si vous ne nous soutenez pas encore, il y a un certain nombre de gens qui nous ont rejoints ces temps-ci. Je les en remercie bien vivement, c'est très important. Je remercie notamment les donateurs de ces derniers jours. Je remercie Claire, notre chère Claire, qui nous a encore fait un don important. On la remercie. Les autres, je les ai dit hier, et sur Tipeee, je n'en vois point de nouveau. Et je vois pas de questions. S'il y a la question de Sam GFDR qui demande comment on rejoint le Telegram depuis Tipeee, il faudra que je lui réponde. Je ne sais pas moi-même, mais il faut que je demande à Léo. Je suis un boomer. Alors, les souscriptions, nous avons comme nouveaux arrivants Oxonome, Star Fox One, François Roger, donc je l'ai dit tout à l'heure, et Saïfi, on lui avait dit bonjour hier, donc je pense les avoir tous salués à ce stade. Alors, donc, on va reprendre la question de Florian Bruelis. Ah, d'accord, c'est plus clair. En cas d'abandon de la réforme des retraites, que va faire l'Allemagne? C'est une bonne question. C'est une excellente question. Elle ne peut pas faire grand-chose, a priori. je sais pas, à part nous, essayer de nous remettre aux fesses une procédure déficit excessif. Mais je pense que les Allemands vont se sentir très impuissants s'ils commencent à nous voir des filets à mauvais coton. Hein. Très honnêtement, je pense qu'ils ne sauront pas trop quoi faire. Ils vont peut-être essayer de faire des pressions via les autres pays européens, mais compliqué, ou d'obtenir rapidement une démission de Macron pour qu'il y ait un nouveau président dont ils espéreront qu'il fasse lui de sa propre réforme, je ne sais pas. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Encore une fois, n'hésitez pas à nous soutenir. Là, je regarde les dernières stats YouTube. Il faut bien vous rendre compte que ce mois-ci, enfin, sur le mois passé, on a gagné 47 membres sur YouTube, mais qu'on a aussi eu 49 annulations. Ce qui signifie que la croissance des souscripteurs n'est pas forcément là. Donc, en nous rejoignant, vous contribuez à soutenir la chaîne, mais vous pouvez aussi remplacer des gens qui ont cessé de souscrire pour des raisons qui leur sont propres. Mais du coup, c'est pour vous dire que le renouvellement régulier de votre générosité est extrêmement important pour la pérennité de la chaîne. Écoutez, on a passé 1 heure ensemble. Je pense que c'était suffisant pour faire le tour de tout ça. Et on verra demain en fonction. Tous les abonnés au canal Telegram, c'est-à-dire le premier palier YouTube, et à partir de 5 € sur Tipeee, savent que je suis avec eux toute la journée de façon sur les Telegram et qu'on parle tout ça, qu'on débriefe au fur et à mesure. Et le soir, c'est l'occasion de reprendre ça un petit peu en détail quand il y a eu assez de matière, bien sûr, dans la journée. Ça fait 3 jours que c'est le cas. Bon, il faut être là. Il faut être là en même temps. Depuis le temps qu'on parle de ces événements historiques et qu'on a la prétention, ce qui est le cas de cette chaîne, à la fois de les anticiper, mais aussi d'essayer de les commenter avec le plus d'acuité possible parce qu'on a des outils que les autres n'ont pas, eh bien, le minimum, c'est d'être là, c'est d'être au rendez-vous face à vous. Et donc, je continuerai à le faire autant que possible, et bien sûr, dans la mesure où les informations qui tombent suffisent à justifier une intervention de ma part. Vous savez, j'aime pas parler pour ne rien dire, ni me contenter de répéter. Alors, il y avait un sondage qui avait été mis par notre ami Iruma, pour savoir quelle est la prochaine étape. Est-ce que c'est dissolution d'émission gouvernement de gauche, gouvernement technique? Dissolution 25%, démission 17%, gouvernement de gauche 32%, gouvernement technique 25%. Je ne sais pas trop à quoi ressemblera un gouvernement technique actuellement, d'ailleurs. Parce que technique, en fait, c'est gouvernement du centre, hein, de toute façon, en général. Donc, si vous n'arrivez pas à faire un gouvernement centriste, je ne vois pas ce que c'est qu'un gouvernement technique. Donc, très honnêtement, moi, j'écarterai ça. Donc, ça restera entre gouvernement de gauche, démission, dissolution. Moi, je dirais peut-être premier essai, gouvernement de gauche, mais qui tomberait très, très vite. Derrière, on peut imaginer que ce serait dissolution et ensuite démission. Mais si jamais on a Macron qui s'arc-boute et qui refuse à la fois le gouvernement de gauche et la dissolution, ça peut aussi péter à la démission, hein. C'est en fonction de ce qui se passera lors des manifs de la semaine prochaine. C'est très difficile à anticiper tout ça. Encore une fois, voyons ce qui se dira demain. Si on est encore sur une phase d'accélération, tant qu'Emmanuel Macron ne trouve pas une solution au moins temporaire pour faire rebaisser la pression, si l'accélération continue tant qu'il n'a pas trouvé de solution, il risque de se passer pas mal de choses. Voilà. Non, je pense que ma chaise doit être quelque chose comme de la Renaissance espagnole. Et c'est sans doute une copie. Bien. Merci à tous d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Je rappelle simplement une chose pour ceux qui l'ont partenu, c'est qu'il n'y a pas de bulletin exceptionnellement cette semaine, ben précisément parce que je multiplie les lives, et notamment j'en ai fait un ce soir, alors que d'habitude, le mercredi, c'est le jour où je prépare le live, que la journée du mercredi, je consacre une moitié de la journée en général à préparer le bulletin, et là, j'ai dû m'en servir pour préparer le live, donc il n'y a pas de bulletin, mais de toute façon, le gros de l'actualité, c'est vraiment ce qui se passe chez nous, et ça peut être très important pour le monde aussi, parce que si on commence à avoir des déboires financiers en France, ça va sans doute avoir un impact sur l'ensemble du monde. Je termine en vous redemandant, parce qu'on est encore, je crois, qu'à 443 pouces, j'aimerais bien, comme vous avez été presque 1200 pendant une bonne partie de la soirée, qu'on ait 1200 pouces, pour favoriser encore une fois la dynamique de la chaîne. N'hésitez pas à refaire un tour ensuite pour balancer un petit commentaire parce que c'est très important les engagements aussi dans le référencement des chaînes YouTube. Et pour essayer de relancer la chaîne un peu, je pense qu'il faudra arriver à avoir des performances qui sont au-dessus d'habitude et autant le faire et le favoriser quand c'est facile de le faire, c'est-à-dire quand il y a beaucoup d'actualités. Donc ça serait bien si on pouvait le faire ce mois-ci. Merci beaucoup pour votre présence ce soir encore une fois, d'être aussi nombreux. Ça fait 3 soirs d'affilée, vous n'en avez pas marre, même si j'aurais compris que vous ne vinciez pas ce soir. en pensant que l'intervention de Lecor ne le méritait pas. J'espère vous avoir convaincu du contraire, que tout ceci avait quand même du sens et qu'il y avait quand même des choses à dire et que les choses ont avancé aussi aujourd'hui. À très bientôt et puis surtout ne vous laissez toujours pas faire.